C'est l'équipe du soir, bonsoir, ou l'équipe de nuit, bonne nuit, tenez bon mes amis, Mel Gibson et voilà, a tenu tête à tout ça, et puis voilà, et puis on démarre un petit peu plus tard que d'habitude. La présentation va donc être express ce soir. Regardez cette belle assemblée pour tenir la main à Mel Gibson. Il y a que de l'américain, Steve Austin, non, Rico Blanco de La Plata, une fouine Benjamin Corrèze, The Voice Frédéric Verdier, puis un acteur américain chargé, Régis Testelin. Bonsoir messieurs.
Bonsoir. Bonsoir.
Je vous réveille messieurs. Non, pas du tout. Wow. Ok, oui, donc voilà, ça roupille. Adrien Courrouble, bonsoir. Finalement, c'est de minuit info. Comme il est minuit info, on va vous laisser un petit peu tranquille. Hein, on va faire le top 3 info. Ça sera un peu plus réduit, un peu plus machin.
Pas de problème.
Pas de problème. Vous étiez obligés. Giroud au JO. Information Le Parisien, notamment de Benjamin Corrèze. Thierry Henry compte bien appeler 3 joueurs de plus de 23 ans donc, pour disputer les JO de Paris. Voici le tiercé de Thierry Henry. Ses préférences, hein. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, d'abord, ces deux noms sont régulièrement cités, il n'y a pas fondamentalement de surprise. Le troisième, un peu une surprise, c'est Olivier Giroud. Alors, Olivier Giroud au JO, vous validez le choix de Thierry Henry? Tout le monde valide?
Oui.
Tout le monde?
Oui.
The Voice, allez-y. Oui, oui.
Bah, totalement. D'abord parce que état d'esprit, exemplarité, profil tellement atypique, et profil que, en effet, les Olympiques français n'ont pas. Moi, je me souviens de Sébastien Allaire quand il était, il n'avait pas choisi la Côte d'Ivoire, quand il était très jeune. Il est arrivé en équipe de jeunes, justement, il disait, tiens, un grand costaud qui est bon de la tête et puis qui est pas maladroit techniquement, si on veut schématiser, c'était un profil qu'on n'avait pas. Et j'avais été personnellement très déçu quand Allaire, finalement, avec les problèmes qu'il a pu avoir, avait choisi la Côte d'Ivoire. Parce que c'est vrai que c'est pas des profils qu'on forme beaucoup, en tout cas dans le football français, depuis une dizaine d'années. Et Giroud est tellement inoxydable que ça donne assez envie.
Bon, il aura 38 ans. Olivier Giroud évoquait sa présence aux Jeux de Paris. Vous allez voir, on a retrouvé une archive. C'était le 21 mars 2023. La réponse est polie. Hein. On est loin d'une campagne, d'un lobbying. Écoutez-le, c'est très court.
Ce serait génial de jouer des Jeux Olympiques, participer à des Jeux Olympiques pour mon pays, évidemment. Après, si. Un Euro 2024, ouais. C'est quelque chose qui me manque à mon palmarès aussi.
C'est un document de nos confrères d'Europe 1 que je n'avais pas cité, je suis désolé. Benjamin Corrèze, Thierry Henry, il est fan d'Olivier Giroud.
Bah, il aime beaucoup Olivier Giroud, effectivement. Il le tient en haute estime, il aime bien la personnalité du joueur, son expérience. C'est un joueur qui, malgré son âge déjà avancé, prouve qu'il est encore performant. Il marque des buts avec l'AC Milan, il marque des buts avec l'équipe de France. Il sera peut-être le titulaire des Bleus à l'Euro l'été prochain. Évidemment, il y a des questions qui vont se poser si d'aventure ça devait aller plus loin, parce que c'est ses préférences, vous l'avez bien dit, et il va falloir répondre à plusieurs interrogations, l'interrogation physique évidemment, savoir si à 37 ans, bientôt 38, il sera en capacité d'enchaîner l'Euro et les Jeux Olympiques, et la deuxième question qui va se poser, c'est de savoir si lui, il est en capacité d'accepter le challenge, en sachant qu'il est en fin de contrat avec l'AC Milan, et que bah, ça peut poser souci, peut-être s'il venait à quitter le club, pour les éventuels clubs intéressés. Voilà.
Ben moi, je réponds à la première question. Il jouera pas souvent à l'Euro. Je me sens, tu mets le froid, parce qu'il y a Mbappé et Thuram. Donc, il aura de la réserve. Non, mais il va pas être épuisé par l'Euro. Je ne pense pas. Après, c'est le meilleur ouvrier de France. Hein. Donc, tu lui remets la rosette du travail. Il l'a. Tu lui donnes les JO. C'est des cadeaux. Il choisit. Moi, ce que je constate, c'est que...
C'est pas un cadeau. Enfin, c'est pour... Enfin, je suis...
Non, c'est un cadeau quand même.
Oui,
bah, mais si, c'est un cas. Les gens... Mais
c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France.
Non, mais...
et il est encore en activité.
Non,
quand même.
Je sais, mais... Non, mais je suis d'accord. Mais c'est un cadeau. Tu peux prendre... Moi, ce que je constate, c'est qu'Henri prend que des attaquants.
C'est un cadeau pour qui?
Il prend personne derrière. Ouais. Et moi, la seule question...
Ça répond à une question.
La seule question, c'est que les mecs devant... Ils sont au chaume nu, à l'heure où je te parle, hein, les trois attaquants, ou un milieu de terrain, on va dire, et deux attaquants, parce qu'il va pas les prendre pour les... Il va la jouer à la Luis Enrique, je te fais rentrer, je te fais sortir, etc. Tu les fais jouer ou tu les fais pas jouer.
Ouais, bah ouais.
Et derrière, non. Donc moi, je connais pas assez le niveau. J'ai vu des matchs, hein, des espoirs, mais je connais pas suffisamment s'il faudrait pas penser, puisqu'on avait parlé à une époque de Varane, de trouver dans l'axe central peut-être un joueur qui fasse le taf. Mais vous êtes mieux placé que moi pour y répondre.
C'est là où ma surprise, parce qu'il y a quand même un réservoir de talent chez les espoirs. J'ai du Kalimuendo, du Wai, du Barcola, du Michael Olise, du Matistel. Et donc, bon, il y avait Mbappé là.
En fait, sur ce sujet-là, bon, après, Régis suit l'équipe, donc il aura plus de vision globale que moi. Mais là-dessus, ce qui est surprenant, c'est que finalement, c'est les attaquants qui émergent le plus jeune. Chez nous, la Ligue 1 des développements, on a beaucoup de jeunes attaquants qui sortent et qui sont performants. Et c'est presque étrange de faire tous les choix dans le rayon même où on a quand même vraiment beaucoup de monde.
Je trouve pas.
Je trouve pas, parce que je trouve que cette préférence, elle répond à une double logique, à mon sens. C'est les plus de 23 ans, tu les prends chez les attaquants, parce que ce qui est le plus dur, c'est quand même de marquer des buts, on est d'accord. Et elle répond à une deuxième logique, qui est la logique de l'association offensive. Parce que là, partant du fait que Mbappé et Griezmann sont les 1 et les 2...
On n'aura jamais les 3 quand même, faut pas rêver.
Ah bah c'est ce que nous dit Benjamin.
Il dit qu'il aimerait avoir les 3.
Ouais, il aimerait, c'est le souhait.
On peut pas l'exclure.
Mais mettons-nous à la place de Henry, Lui, il s'imagine Mbappé, Griezmann, Giroud. Là, le boulot devant, il est fait. T'as plus qu'à t'occuper de l'animation défensive et de trouver le meilleur gardien de but. Et je trouve ça assez logique, en fait, d'aller chercher Giroud. Parce que Kalimuendo, oui, bien. Wai, bien. C'est des joueurs. Mais avec Giroud, tu sais quand même plus où tu vas qu'avec Kalimuendo et avec Wai.
Non, mais c'est valable sur toutes les lignes. C'est-à-dire, tu peux trouver l'équipe. Si tu prends les meilleurs joueurs français dans toutes les lignes, tu sais mieux où tu vas avec les meilleurs joueurs français dans toutes les lignes qu'avec les espoirs.
Après, l'argument d'Eric, il est imparable, c'est qu'il y a un énorme problème en défense centrale. Et bah que oui. Là, évidemment, si tu en prends trois devant, tu vas te déplumer en défense centrale. Et ça, c'est un choix.
Juste, on a Loukeba et Saliba.
Loukeba, Saliba, Lenny Yoro et Benoît Badiachil, potentiellement. Va donc revenir dans la danse, puisqu'il est 2001. Alors, il sera certainement absent pour la liste de cette semaine qui sera annoncée parce qu'il revient juste de blessure avec Chelsea. Mais ça reste, si Badiachi est un joueur quand même d'expérience, qui a déjà joué en équipe de France.
Mais les Anglais,
et Saliba potentiellement.
Si ces joueurs-là, ils vont à l'Euro, jamais Chelsea,
Benoît Badiachi
ou Arsenal vont les lâcher.
Saliba, ce sera certainement plus compliqué pour Badiachi. Badiachi qui a quand même des concurrents, plus de concurrents, on va dire, à Chelsea. Et peut-être
excusez-moi, vous nous dites que la Saliba, non, il aura le veto de son club Arsenal.
Enfin, c'est pas le genre Arsenal, quoi.
C'est pas le genre.
Ah, c'est pas le genre.
Même avec le monsieur qui a sa statue devant le stade.
Ah ouais, c'est pas le genre. Mais déjà, lui, il faisait pas souvent plaisir à l'équipe de France quand il était entraîneur d'Arsenal. Arsène, il faut dire ce qu'il est.
On parle d'Arsène Wenger.
Je parle de Thierry Henry.
Oui, parce qu'ils ont tous les deux leur statue.
Mais oui, mais Thierry Henry, il a quand même sa statue devant l'Emirates. Quand il va aller taper à la porte pour demander Saliba, ça risque d'être plus facile, non?
Non, je
non. Tiens, j'ai ressorti une phrase aimable de Thierry Henry qui m'est revenue aux oreilles. J'ai dit, mais Henry, Giroud, tout ça, il lui avait pas mis un petit tacle. Giroud fait vraiment bien son job. Il n'empêche, Arsenal a besoin d'un attaquant de classe mondiale. Alors, on était en 2015, il débutait sa carrière de consultant sur Sky Sports. Donc, en 9 ans, Olive, il est devenu un attaquant de classe mondiale.
Bah, mais lui-même a tellement balancé sur les copains en général et avant de se réconcilier qu'il ne doit pas être à ça près quand même.
Ouais.
Parce qu'il en a dit quelques-unes aussi.
C'est pas du gars quand même.
Non, c'est pas du gars, mais Giroud sur Benzema, Giroud sur Mbappé, Giroud sur... Il a quand même quelques casseroles, oui. Et ça s'est bien passé.
Sur, où tu parles de Giroud vraiment.
Non, je parlais de Giroud, moi.
C'est Giroud qui balance, tu trouves?
Ah ben non, mais ça lui est arrivé, oui.
Oui.
Après, avec...
C'est aussi fait quand même pas mal charcler.
Mais par qui?
Par Benzema, justement.
Oui, non, mais d'accord, mais enfin, tout globalement, c'est une légende que ça a été dur pour lui, qu'il soit fait tailler, c'est quand même une légende, globalement.
Mmh. Oui. Bon, en tout cas, il n'est jamais cité parmi les grands attaquants. Non, les meilleurs attaquants du monde, les numéros 9. C'est on a Kane, on a les vendeurs. Quand on fait des débats ici, je tiens le bistrot tous les soirs. Il n'y a jamais quelqu'un qui me dit oh, Giroud.
Non, parce
sauf quand il marque.
Non, parce qu'avant Milan, ça faisait au moins 6 saisons qu'il n'était plus titulaire en Première Ligue, à peu près.
Mmh. Non, mais les grands attaquants aujourd'hui, c'est quand même au niveau de l'équipe nationale, même s'il est le numéro 1, ben, il est. Il n'est pas à 70, 75 buts comme certains le sont. Mmh. On va prendre Messi, Ronaldo. Non, mais.
Ouais,
mais
là, c'est 50, des phénomènes.
Quoi? Oui, je sais.
Il a plus de 50, c'est
non, pas... non, mais il a battu Henry, j'ai compris.
Mais... Non, mais écartez Messi, Ronaldo, parce que là, les deux phénomènes.
Non, mais Neymar qui est à 60, plus de 70 buts, ouais, 77. Bon, Neymar, ouais, il a battu Pelé qui était à 60.
Mais c'est même pas un avançant, Neymar.
Oui, je sais, mais on va dire un attaquant.
Mais un Kane. Mais on ne dit pas après, Kane, Giroud gagne Kane.
Si ces trois-là sont là, et tant mieux. La pression, ils savent gérer. Tard, mais là, ils ont une pression énorme. Ça veut dire que c'est magnifique au niveau du marketing, de la com, les Jeux Olympiques. Mais là, tu n'as pas le droit de perdre.
Vincent, quand tu dis
un fiasco.
Quand tu dis les trois seront probablement pas là, c'est quand même trois cas très différents. Mbappé, on considère qu'il va faire à peu près ce qu'il veut, qu'il va y aller.
Tu penses qu'il va faire ce qu'il veut avec le Real?
Je pense que ça va être.
Non. S'il va en finale de l'Euro, tu penses que le Real va être d'accord pour que une semaine après, 5 jours après, c'est ils rejoignent les espoirs.
14 juillet la finale de l'Euro, 24 juillet début du tournoi.
Est-ce que tu crois qu'avec le Real, Mbappé il va pas négocier bien avant?
Mais
en
je
amont
dis juste après donc, s'il va au bout des JO, ça finit 15 jours plus tard, donc on finit 7-8 août. Mm-hmm. Il faut quand même qu'il prenne des vacances. Tu lui donnes 10 jours. Ça veut dire qu'il va signer. Il va toucher 150 ou 160 millions d'euros à la signature et il va commencer le 15 septembre avec le Real.
Là, ces trucs-là, ça s'anticipe. Il n'arrive pas.
Non, je dis pas que ça s'anticipe,
mais ça s'anticipe. Oui, non, mais ça s'anticipe. Oui,
enfin, ce genre de discussion. S'ils veulent Mbappé, ils le veulent à tout prix. Oui. Et ça fait partie du prix.
Vincent, est-ce que Mbappé veut pas aussi le Real à tout prix? Je sais pas.
Oui, mais Vincent, il peut rater les trois premières journées de championnat en prenant ses
mais
vacances.
La Ligue des Champions, ça arrive,
oui, elle démarre le 9, mais le Real a joué
très vite.
Le Real a joué sans Mbappé depuis à l'heure où on parle et ils savent passer les tours.
Que ce soit problématique, oui.
On dirait qu'il n'y a aucune star au Real qui sont démunis, ils n'ont plus d'équipe, ils n'ont plus rien.
Non, c'est votre côté le Barça, il ne parle pas du Real, il s'en fout. Il parle de la complexité.
Je parle de la difficulté qu'on arrive dans un club de dire je serai là dans trois mois. Et de toute façon, d'une manière générale, je dis juste que si Thierry Henry, au jeu, il a son plan A, son plan B et son plan C, bah franchement, alors là, ça serait quand même un miracle. Voilà, c'est tout.
Bon, fin de cette première discussion sur une information du Parisien de Benjamin Quarez. Benjamin, parfait, on peut passer.
Il était impeccable.
Ah, merci beaucoup. On a un petit truc pour les JO. Il y a des Espagnols également.
Oui, il y avait un petit complément d'information. Mmh, ouais. Avec les Espagnols, c'était en 2021, rappelez-vous. Ils étaient 6 à avoir enchaîné et l'Euro et les Jeux Olympiques. On va voir la petite photo. Regardez le point commun d'Oyarzabal, Pau Torres, Unai Simon, Dani Olmo et Eric Garcia. Bah, c'est qu'ils ont joué. Les deux, on rappelle que l'Espagne était allée en demi-finale de l'Euro et derrière avait enchaîné finale des Jeux Olympiques. Il y avait 16 jours d'écart entre la demi-finale de l'Euro et le début des Jeux Olympiques. On précise quand même que sur ces 6 joueurs, il n'y en avait aucun qui avait plus de 24 ans.
Et puis, on peut aussi dire que derrière, il y en a un.
Pedri
Pedri, notamment, c'est blessé sérieusement et que ça a été compliqué. Quoi.
On parle des espoirs, ça sera diffusé sur notre antenne les 22 et 25 mars prochains. Premier match des hommes de Thierry Henry contre la Côte d'Ivoire. Le deuxième, ce sera contre les États-Unis. Merci Jacques Villeray. OM droit en C1, les victoires de l'OM hier contre Nantes au Vélodrome permet à l'OM d'envisager disputer donc la C1 qui était l'objectif donc de la saison. Ce week-end, l'OM a repris 2 points à Lille et à Rennes, 3 à Brest et à Nice. Depuis 3 journées, l'OM est la seule équipe à compter 3 victoires de rang. Un joueur symbolise cette bonne passe, vous le voyez, c'est Pierre-Emerick Aubameyang, 5 buts. Sur les 3 derniers matchs de Ligue 1, avec un tel Aubameyang, l'OM candidat crédible à la C1. Et là encore, votre ville peuple est d'accord. Oui, vous avez tous dit oui. Benjamin.
Sur le plan des statistiques, c'est imparable. Ils sont excellents depuis plusieurs matchs. Et puis, je crois qu'ils n'ont pas eu un attaquant à marquer autant de buts depuis Didier Drogba. On en parlait du manque d'un numéro 9. On mettait l'absence d'Alexis Sanchez sur le tapis toutes les semaines depuis le début de la saison. Et là, on n'en parle plus parce que Aubameyang est en feu. Il marque but sur but encore ce week-end. Alors, il est bien aidé par Alban Lafont, mais il les met dedans. Et puis, voilà, il porte cette attaque de l'Olympique de Marseille. L'OM qui a quoi, à 3 points de la Ligue des Champions aujourd'hui.
Ouais.
Bon. Déjà, sur le plan comptable...
3 points à la Ligue des Champions, non, vous êtes un petit peu généreux. C'est 4 points. 4 points oui, Lille.
À 3 points du tour préliminaire.
Ah oui, 3 points, oui, excusez-moi, c'est ma formation au bac L.
On ne peut pas dire qu'il soit très très loin. Effectivement, avec un Aubameyang comme ça, on peut rêver. Hein.
Il y a deux choses pour la victoire d'hier. C'est une victoire dans la douleur. C'est ce qu'a dit Jean-Louis Gasset. Une victoire remportée avec d'autres ingrédients. C'est la lecture, c'est-à-dire que l'OM a toute la panoplie pour gagner à peu près tous les matchs. Et puis il y a également l'OM qui est un peu sur la jambe, là, avec à la fois la Coupe d'Europe et à la fois le basculement en championnat.
Très franchement, en deuxième mi-temps, qui marque le deuxième but, c'est un miracle absolu.
C'est un miracle, ouais.
Ah, c'est un miracle absolu. Il voyait plus un ballon depuis 20 minutes. Il y avait occasion sur occasion. Ils s'en sortent vraiment très, très, très bien. Mais c'est sûrement bon signe. C'est sûrement le signe qu'ils font quelque chose de bien et que collectivement, il y a quelque chose dans l'équipe qui leur permet de passer ces moments-là.
Mais il n'y a pas de surchauffe possible par rapport à ça. C'est-à-dire dans les... Bah, j'ai fait le calendrier après la trêve internationale, si on peut le regarder.
Ils ont pas battu grand monde, voilà, on peut dire
ils
ça.
Ont, ils n'ont pas battu grand monde dans cette... Mais là, alors là, vous voyez ce qui les attend.
Ah, voilà.
On a OM-PSG, donc c'est après les rencontres internationales à la trêve internationale. OM-PSG, donc, PSG bien classé, Lille mieux classé. On a coché quand même le potentiel quart aller de la Ligue Europa. Quand on a gagné 4-0, bon, on se met un petit quart de Ligue Europa aller. OM-Nice, potentiel quart retour évidemment. Toulouse-OM et OM-Lens. Là, c'est... Voilà. Il va falloir donc doubler 3 équipes et reprendre 3 points. Donc sur ces au moins 3 équipes.
Ah, souvenez-vous, vous estimez pas l'état d'esprit et surtout le côté miraculé. C'est-à-dire le marasme et la vacuité dans laquelle ils étaient plongés à l'époque de Gattuso. C'était quand même une infamie, quoi. C'était terrible. Ils étaient au fond du sachet. Et là, en même pas un mois, on a l'impression que il a insufflé, Jean-Louis Gasset, une espèce de, d'élan. Il met les bons joueurs aux bonnes places. Comme il l'a dit, j'ai beaucoup aimé le côté... Bah, c'est le joueur. Donc, c'est le joueur, voilà. Et je mets autour tout ce qu'il faut pour que le joueur nous gagne les matchs. Et effectivement, alors, je suis désolé, mais certes, en championnat, vous avez raison, c'est pas des, des équipes incroyables qui étaient en tout cas pas en confiance.
C'est Montpellier-Nantes et Clermont. Mais,
on se souvient d'un match, il n'y a pas si longtemps. Brest,
ouais, ah, Marseille, c'était terrible.
C'était sur le plan offensif totalement indigent. On a l'impression qu'il pouvait jouer 3 heures sans en mettre une seule. Il y avait pourtant eu quelques occasions, mais c'était plutôt des situations. Et là, depuis, ça attaque à tout va, ça marque surtout. Villarreal, je suis désolé, mais c'est quand même, je trouve, un match assez emblématique de ce qu'ils sont capables de faire en ce moment. Et moi, je trouve ça très impressionnant parce qu'il y a un revirement que je trouve tout à fait incroyable.
Après, ce qui doit rassurer les supporters de l'OM aussi sur l'objectif top 4, c'est le comportement des équipes de devant. Parce qu'il va falloir en doubler 3 ou 4.
Ouais.
Et ça patine quand même beaucoup. Lille, ils ne gagnent jamais quand il faut gagner. Ils ne prennent jamais 3 points.
Oui, je me souviens d'une de vos phrases il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, Régis, pourquoi Lille se prend-il si souvent les pieds dans le tapis dès lors que le podium lui tend les bras?
Et à chaque fois, c'est pareil. À chaque fois qu'ils ont l'occasion d'être 3 ou 2, ils se cassent la gueule. Et encore, là, contre Rennes, ils s'en sortent miraculeusement. Mais ils perdent à Lorient, je crois. Enfin, ils perdent des matchs. Dès qu'il faut y aller, ça cale.
Bon, Nice, bon,
c'est la cata.
Ouais.
C'est la cata.
Qu'est-ce qui se passe à Nice? Vous qui avez suivi Nice à un moment, là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas des raisons en interne, non? Moi, rien ne me revient. Moi, j'avais passé quelques coups de téléphone.
Nice a été en surchauffe. En surchauffe. Ouais. Enfin, ils ont gagné 1-0. Pendant des mois et des mois, et dès lors qu'ils ont commencé à prendre des buts, offensivement, c'est la catastrophe. Ils ont une perte de confiance incroyable. Le système Farioli marche plus du tout.
Tu vas pas non plus traverser la saison en montrant aussi peu offensivement et en gagnant 1-0 à chaque fois. Il y a un moment que tu tombes du fil.
Ça peut arriver. Des équipes qui gagnaient une saison 1-0 qui se qualifiaient pour la Ligue des Champions. Ça peut arriver.
C'était l'attaque la plus faible d'Europe en étant deuxième.
Ouais.
1,40. La moyenne de buts par match.
Ouais.
Enfin, à un moment donné, tu tiens, ça peut tenir, mais tu
une mauvaise habitude du niçois qui est de s'écrouler en deuxième partie de saison. C'est récurrent chez eux. Et
vous nous faisiez un inventaire. Il y avait Lille, Nice. Moi, le sujet de Monaco aussi.
Monaco, je crois que c'est reparti quand même.
Ah, c'est reparti là.
Je pense que c'est reparti.
Vous avez vu le match hier à Strasbourg? C'est reparti. Bon, les petits jeunes ont sauvé le coup.
Ouais, les petits jeunes ont sauvé le truc.
Ils ont du monde quand même.
Ils ont du monde, ouais. Ils ont du monde et là, ils n'ont plus beaucoup de blessés. Ils récupèrent tout le monde. Et puis, ils sont habitués en revanche des sprints plutôt réussis, des fins de saison en boulet de canon, bon, sauf la saison passée. Mais non, Monaco, je les vois dans le top 3. Mais après, Lille, je ne sais pas.
Monaco, vous les voyez dans le top 3?
Oui, mais je pense
Paris, vous le voyez dans le top 3.
Je pense que Marseille peut gratter. Je pense que Marseille va gratter Nice et peut gratter Brest aussi.
Brest?
Bah, pourquoi pas. Ouais. Oui, Brest.
Ils n'ont pas été ridicules encore ce week-end contre
l'Angleterre. Non, mais bon, vous êtes sûr que Brest va tenir les 9 dernières journées comme ça?
Dans le jeu, pour l'instant, en tout cas, ils ne montent pas beaucoup de faiblesses.
Oui, non, mais je suis d'accord.
Et puis, ils digèrent l'effet de jeu. Quand ils prennent des rouges, ils prennent des blessés, c'est pas grave, ça joue quand même. Ils n'ont pas de grands buteurs. D'habitude, les équipes, entre guillemets, en tout cas moyennement outillées, s'ils ont un grand gardien et un très bon buteur, ils peuvent faire des saisons surprises comme ça. Ils n'ont pas de buteur.
Mounier.
Ne marque jamais. Mounier marque très peu. Il peut être à 3-4 buts en championnat, c'est dérisoire.
Oui, mais ils ont l'Esmelou, ils ont l'Escassio.
Oui, mais l'Esmelou, d'accord.
Alors, qui va l'OM va bien doubler 3 équipes pour être 4e.
Vous m'avez tous dit chiche, mais quand on regarde dans les détails.
Moi, je dis Nice.
Nice, ça va s'écrouler.
Nice, Lille.
Mais. Monaco.
Mais. Non.
Et Brest. Monaco tout à l'heure.
Non, Monaco sera sur le podium.
Ah, d'accord.
Je dis que Marseille passe devant Lille, devant Nice et devant Brest.
Mais, sincèrement, tu poses la question il y a 3 semaines, on est peut-être tous des menteurs ici.
Parce que c'est sûr.
L'OM s'est fait dézinguer. Alors, jamais on pensait comme l'OL devait descendre.
On parlait de l'OM de Gattuso.
Non, mais il faut avoir la mémoire. Donc, il faut beaucoup d'humilité. Faut beaucoup d'humilité. Oui, mais. De temps en temps, on peut se planter dans l'intuition, on fait des paris, on essaie. On ne dit pas qu'on a la vérité.
C'est pas le même OM. On ne parle pas du même OM.
Non, mais je sais.
Il y a trois semaines et aujourd'hui. D'accord.
Oui, mais il y a 3 semaines, Longoria était une pipe. Il avait acheté que des mecs à l'EHPAD. Mais je l'ai entendu partout. Ça valait rien. Ndiaye, il valait rien.
Mais c'était la réalité. Il était nul.
D'accord, mais donc c'est grâce à Gasset qui arrive et ils changent tout. Moi, je pense que
Sarr est bon.
Mais bien sûr. Eric, vous nous invitez, Eric Blanc. Eric, j'ai plus le réseau.
Pour vous en sortir de votre raisonnement, c'est Gattuso, le fautif, le tocard.
Oui.
Fallait jouer en 3-5-2, il joue en 4-3-3.
C'est pas une question de stratégie.
J'ai entendu ici les plateaux.
C'est pas une question d'organisation. C'est management, Eric. C'est management.
Eric,
vous êtes facile. Moi, je dis, il faut beaucoup d'humilité.
Eric, excusez-moi. D'habitude, Eric.
Moi, je parle. Je dis des choses.
Mais là, on est sur un prono, Eric.
Oui.
On dit oui, ça peut le faire.
Allô, Eric Blanc. Eric, vous êtes là ou pas?
Oui, je suis là.
Ah, oui, bonsoir, Eric. Non. Eric, vous n'avez pas d'intuition sur ce qui va se passer à la fin de saison? Si vous nous dites, bon, il y a trois semaines, on condamnait l'OM, on condamnait l'OM de Gattuso, donc on ne sait pas. Et vous ne savez pas.
La haute montagne, vous avez décrit le tableau qu'ils allaient jouer.
Ouais.
On pensait qu'ils étaient morts, ils se sont réveillés. On va parler après de Gasset, d'accord ?
Ouais.
Donc, ils peuvent, parce que sincèrement, quand on dit la Ligue des Champions, autour de la table, rebelote, parce qu'il y a des gens honnêtes, on parle de la quatrième, la troisième, on se dit c'est très compliqué, donc on s'accroche tous à la quatre. Si tu parles de la trois, ils changent tous leur raisonnement, ils disent, ils vont mourir à la quatrième.
Ouais.
Voilà, c'est ça, la réalité. Ah oui, bah voilà.
D'accord.
La quatrième,
c'est pas contradictoire avec ce qu'on vient de dire.
Non, la quatrième, c'est l'accession au barrage.
Oui, oui, mais on est d'accord. Tous les ans, on se fait ratatiner, donc on est un peu au courant, Ricky. vous avez Fred, il y a quelques minutes, vous avez cité du Jean-Louis Gasset hier sur Pierre-Emerick Aubameyang, que vous lui avez adoré. C'est vrai que sur l'utilisation de son joueur majeur, Jean-Louis Gasset applique une méthode simple. Claire, on va l'écouter.
Moi, j'aime bien l'OM.
C'est le joueur. Dans toutes les équipes, vous avez le joueur. Donc, vous mettez le joueur là où il aime, et après, vous construisez l'équipe.
Alors, dans mon cerveau tortueux, moi, j'ai fait une petite association. Association. J'écoute Gasset qui utilise son joueur majeur. Attendez, excusez-moi. Ricky. Merci beaucoup, Ricky. Dans mon cerveau tortueux, j'ai fait ce parallèle avec Luis Enrique, donc il met sur le banc depuis 5 matchs. Et vous m'avez dit, mais non, c'est pas pareil, Luis Enrique, ça n'a rien à voir, tu confonds tout, c'est pas possible. Je comprends rien. Régis, prenez-moi par la main. Régis, prenez-moi par la main, pourquoi c'est pas pareil l'utilisation d'un joueur majeur à Paris ou à Marseille?
Faut contextualiser le truc. Aubameyang, il est installé dans cette équipe, il a 3 ans de contrat, c'est l'avant-centre, c'est le meilleur joueur de cette équipe. Mbappé, il s'en va, il est carré depuis qu'il s'en va. On prépare à la fois la saison prochaine et après, et on le punit également de ne pas avoir prolongé. Vous êtes dans un système de management qui est complètement vicié et perturbé et pourri par le départ de Mbappé, alors que Aubameyang est en place et qu'on compte sur lui et qu'il n'y a pas d'aspérité autour du cas Aubameyang. Le cas Mbappé, il le verre est dans le fruit. Donc,
pour citer Vincent Duluc,
voilà, les grands auteurs,
votre réponse est une réponse politique à une question sportive.
Mais en fait,
page 2 de l'équipe du jour.
Voilà, mais en fait, c'est ça qui me choque. C'est-à-dire que là, en ce moment, il reste 3 mois pour la saison. Et les deux coachs, ils sont censés avoir le même but et utiliser les mêmes moyens. Donc, je ne vois pas pourquoi Luis Enrique n'utilisera pas Mbappé comme Gasset utilise Aubameyang.
Tu ne vois pas pourquoi ça fait semblant de ne pas savoir.
Non, je vois bien qu'il ne le fait pas, mais je ne comprends pas qu'il ne le fasse pas, justement. Ouais. Parce que je ne comprends pas la raison. Son boulot, c'est d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions.
Ah oui.
C'est d'assurer le titre, parce que s'il continue à prendre un point par match, il y a un moment où ça va être un peu plus compliqué.
Ils ont encore 10 points d'avance.
Même s'ils ont de la marge, ils ont de la marge, on est d'accord.
10 points.
Je ne veux pas me faire l'avocat de Luis Enrique, parce que je m'en fiche.
Ouais.
Mais la façon dont il a géré Mbappé avant la Real Sociedad en le faisant sortir à la mi-temps de Monaco, excuse-moi, ça a plutôt tourné au triomphe.
Mais non,
c'est pas grâce à
donc,
ça.
Non, mais non. Donc, tu pars du principe, Régis.
Non.
Pour qu'Mbappé soit bon, il faut le sortir le match d'avant.
J'ai pas dit ça.
Il a été bon 4 fois.
J'ai pas dit ça. Je dis juste qu'il l'a sorti à Monaco à la mi-temps et que l'autre a été très très bon 4 jours plus tard pour le Paris.
Tu introduis un lien entre les deux faits.
Je dis qu'il s'est pas planté sur la gestion de ces deux matchs.
Il est pour rien. L'entraîneur, il est pour rien dans les deux. Il est sorti. Il est très bon, il n'est pas sorti. Il est très bon. Donc il sert à rien.
Tu peux pas lui retirer ça.
Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de lien
entre
la manière dont il traite Mbappé et le fait qu'Mbappé soit décisif en Ligue des Champions, puisqu'il est toujours décisif en Ligue des Champions.
Et bah alors,
donc il n'y a pas de lien.
Bah, il a pas.
Il est toujours décisif. Bah,
alors qu'il ne fasse jouer ou pas, ça ne changera rien.
Non, mais il n'a pas été décisif à Newcastle, par exemple. Non, mais tu me dis, il est tout le temps décisif. Oui. Mais si tu prends historiquement face à des grosses équipes, il a aussi coulé au Bayern de Munich. Il devait tout casser. Moi, j'ai rien contre Mbappé, mais tu me dis. Il est au top du top tout le temps. Non, il y a un plafond de verre. Mbappé, moi aujourd'hui.
Un plafond de verre de quoi,
en finale.
Un plafond de verre de quoi?
Bon, eh ben, alors, pour moi, par rapport aux grandes stars qui ont mené leurs équipes en haut. D'accord.
Mais
les Neymar, les Messi.
Ils avaient la même équipe.
Attends,
autour,
je termine.
Ils avaient la même
non,
équipe.
Pas du tout.
Ils avaient la
mais
même équipe.
Ils n'ont pas joué devant un stade vide.
Ils avaient la même équipe.
Non, mais ils n'ont pas joué devant un stade vide en Covid en finale. Et en juste finale. Mbappé, oui, malheureusement, il a une occasion. C'est ça, les grands champions. Mmh. Vous arrêtez pas de dire il faut que le mec réponde avec une occasion.
Mais Ronaldo, il a attendu d'avoir 27 ans pour marquer des buts décisifs en finale de la Ligue des Champions.
Mais juste une question sportive, non, purement sportive.
Laisse-moi terminer 2020, Régis, que je termine.
Ah bah,
on joue dans le stade.
Non, mais pas. Vas-y, Rico.
Tu dis à chaque fois, le mec le sort avant, il le pique, ça sert à rien. Mbappé est toujours très fort.
C'est trop facile.
Il est là, il a fait aussi des mauvais matchs. Malheureusement.
Mais bien sûr, mais c'est
comme Messi en a raté.
Mais c'est pas la question, Rico. C'est pas la question.
Tu parles de 2020.
Non, Bayern de Munich. Retour. Non,
mais c'est il y a 4 ans.
Non, l'année dernière.
Et l'année dernière, il revient aussi de blessure.
Messi, Neymar.
Si.
Galtier joue à 10 derrière.
Il est même pas titulaire en 8 ans.
Non, mais laisse-moi terminer.
Je pense qu'on a complètement perdu.
T'as pas besoin de me dire ça. Parle-moi, si tu veux, du tennis, j'allais en venir. Il joue que 20 minutes. D'accord. Non, parce que vos raisonnements, je suis pas d'accord. Messi, Neymar, au point. Au retour. Monsieur Verdier,
mais tu refais l'histoire.
Il était titulaire, il devait tout casser. Il a eu 3 dans l'équipe. Et tu sais ce que c'est la grande page de l'équipe le lendemain? Qu'est-ce que c'est?
Oui, tu nous l'as déjà dit, c'est Messi.
C'est Messi à par terre, comme un vagabond, un migrant.
Mais c'était ça!
La défaite! Non, la défaite! Ça veut dire que moi, je suis. Non, je discute avec des mecs qui aiment le PSG. Par rapport à ce que vous êtes en train de dire, des vrais supporters, qu'on 20 ou 30 ans, c'est pas ça. On attend Mbappé qu'il la fasse gagner.
Mais donc, qu'il soit très bon pour PSG, et Messi non plus, il n'a pas fait gagner non plus.
D'accord, mais Messi, en 2009, il n'a fait pas gagner contre Manchester United.
Mais avec quelle équipe autour de lui, bon, compare pas.
Donc,
donc, tu veux comparer les PSG de cette année au Barcelone de 2009
peut-être. Non, d'accord, alors, vas me dire, quand Mbappé gagne en 2018, c'est l'équipe de Mbappé ou plutôt Pogba Griezmann?
Il a 20 ans.
D'accord, et alors, à 24 ans, il avait combien de ballons d'or, Messi? 4.
Mais
tu me dis ça.
Eric, je pense qu'on est un peu sorti de l'angle.
C'est
dans la gestion d'un joueur majeur.
Alors moi je dis la gestion.
Ah voilà, merci.
La gestion est excellente.
Pourquoi elle est scandaleuse? Eric Blanc, silence, Poupoune.
C'est pas une décision sportive cette fois. Et le problème, et Mourinho faisait comme ça, il est surmené. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu dis, si Mbappé est mauvais de match après que tu le sors, en Ligue des Champions, il dit, oui, j'ai raison de le sortir. Et s'il est bon, il dit, vous voyez, j'ai fait ce qu'il fallait. Mmh. C'est trop facile. C'est pas comme ça qu'un entraîneur doit gérer un joueur comme ça. Mmh. C'est pas comme ça.
Moi, je pense pas qu'il...
Non, silence, c'est le micro coupé. Micro coupé, Eric. Merci, respectez le concept. Luis Enrique a-t-il les coups des franches? Moi, je m'interroge là-dessus, justement.
Tu veux dire par rapport à Nasser?
Jamais.
Il a les coups des franches pour sortir Mbappé, pour l'utiliser. C'est ce qui se dit sur le plateau. Ou alors non, il est juste, finalement, il respecte la décision de son patron, de son N+1.
Oui, ça ressemble plutôt à la marionnette de son patron, puisqu'il ne le sortait absolument jamais avant la prolongation, ou en l'occurrence la non-prolongation et la libération d'Mbappé.
Mais ça peut être son égo aussi.
Il a l'aval.
Il en a un colossal en plus, Luis Enrique.
Non, vous êtes toujours... Eric, merci, vous êtes toujours en tôle. Benjamin Quarez.
Une autre théorie inverse, c'est qu'il fait ces choix-là et qu'il a l'aval de sa direction. C'est-à-dire que deux échos qu'on a et de ce qu'il peut expliquer à son groupe, il fait ses choix en âme et conscience, et c'est sa volonté à lui de préparer la saison prochaine. C'est d'ailleurs le discours qui tient. Moi j'y croyais. Moi, j'y croyais pas à ce discours-là.
Oui,
mais c'est un discours qui tient à son groupe.
Pas que
tous les jours.
Déteste une chose, ils ne sont pas habitués à ça, c'est qu'on les quitte. Ancelotti l'a fait, il les a quittés. Rabiot les a quittés libres, ils ont détesté, ils l'ont mis
tricard. Oui, mais, ça, mais c'est pour ça que je dis qu'il a l'aval de sa. Absolument.
Frédéric, excusez-moi, mais Benjamin, vous doutiez de ça et vous,
ben, moi, je racontez très fortement ce que vous dites. Les premiers éléments de langage que le club pouvait nous faire fuiter au moment de l'annonce du départ de Kylian Mbappé, c'est-à-dire que oui, il avait le temps de préparer ensuite la saison prochaine, qu'il jouerait moins, mais que c'était pas un problème, il fallait préparer ça.
Moi, je n'y croyais pas du tout. Tu te trouves normal?
Attendez, parce qu'il n'y a pas fini. Ouais. Puis
force est de constater que c'est le discours que l'entraîneur tient à ses joueurs chaque semaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il l'a fait comprendre non seulement à Mbappé, mais aussi aux autres joueurs, qu'il faudrait apprendre à travailler sans lui, que la saison prochaine se préparait dès maintenant, que donc la saison, et ça, moi, je trouve que c'est un discours très dangereux, était plié dès maintenant, et que du coup, on pouvait déjà profiter de ces matchs-là pour travailler sans qu'il y ait Mbappé. Bon, moi, c'est un discours que je trouve assez dangereux, comme toi, puisque je me dis qu'effectivement, à un moment donné, si tu perds des points, tu vas finir par être rattrapé par le deuxième.
Au-delà de ça, à 4 semaines du quart de finale aller de la Ligue des Champions, tu trouves normal de préparer la saison prochaine et pas le quart final aller de Ligue des Champions?
Mais il fait les...
C'est ça la question.
Mais je
pose la question.
Il fait les deux.
Tu peux pas faire les deux à la fois, c'est l'un ou l'autre.
Il fait du turnover permanent, de toute façon, Lucien Riquet, déjà. Il fait du turnover permanent. Le seul joueur avec lequel il l'a pas fait, c'est Kylian Mbappé.
Donc en fait, il prépare. Il prépare pas d'objectif à court terme, il est déjà dans l'année prochaine.
Il a toujours bossé comme ça, en fait, depuis le début de saison. Le seul joueur avec lequel il n'a pas fait de turnover depuis le début de saison, c'est Kylian Mbappé. Regarde aujourd'hui, Ousmane Dembélé, il joue pas plus que Kylian Mbappé. Enfin, en tout cas, il est sur le banc sur 5 des 7 derniers matchs de Ligue 1.
Oui, mais.
Donc, c'est pas le seul joueur qui.
Il n'y a pas un autre joueur avec lequel il y a autant de différence.
Je suis pas dupe.
On écrit tous la même chose.
On est d'accord, je suis d'accord avec toi. Il y a un PSG avec Kylian Mbappé, il y en a un sans. D'ailleurs, Luis Enrique le voit très bien. On l'a vu encore ce week-end sur le match. Quand il rentre 20 minutes, il tire presque autant que Gonçalo Ramos. Enfin, j'exagère, mais il fait la moitié des frappes. C'est le deuxième tireur du match du PSG en 20 minutes. Mais aujourd'hui, le Paris Saint-Germain avec Luis Enrique, c'est un turnover permanent où tu peux maintenant aujourd'hui le faire avec Kylian Mbappé. Comme les autres joueurs, ça a été décidé comme ça par l'entraîneur.
Dans quelques minutes, il y aura encore un débat plus chaud que celui d'Mbappé. C'est le VAR. Le VAR qui est en crise. Allez, à tout de suite. Retour sur le plateau de l'équipe du soir. Le top 3 info, Adrien Courrouble. On va commencer par le tennis avec la perf de Gaël Monfils à Indian Wells.
Oui, une belle nouvelle parce qu'il a gagné Gaël Monfils. Il y avait d'abord le contexte, effectivement, Master 1000 d'Indian Wells. Il y avait également l'adversaire, Cameron Norrie. Il y avait le scénario parce que Gaël Monfils, il a perdu le premier set. 7-6, il était mené 3-0 dans le deuxième, donc on ne donne pas cher de sa peau à ce moment-là. Regardez, ça, c'est la balle du deuxième set qu'il va gagner. 7-6, Gaël Monfils. Très jolie balle remportée par Gaël Monfils. Et 7 remportée par Gaël Monfils qui va s'accrocher et qui va gagner 6-7, 7-6, 6-3. Il affrontera en huitième de finale le vainqueur du match entre Arthur Fils et Casper Ruud. En revanche, petite déception pour qui? Pour Hugo Humbert. Il a perdu contre Tommy Paul en 2-7, 6-4, 6-4. C'est une petite déception, Fred, quand même, parce qu'il avait gagné à Dubaï. On le sentait en pleine forme. On l'espérait le voir faire un beau parcours à Indian Wells.
C'est mal pour un bien, je trouve, parce qu'il a un petit truc aux adducteurs, Hugo Humbert. Il ne faut pas trop tirer sur la corde. Il a gagné 2 tournois déjà à Marseille et à Dubaï. Je trouve que ce n'est pas plus mal qu'il perde tôt à Indian Wells. La tournée américaine est très longue. Il y a encore maintenant beaucoup de battements jusqu'à Miami. Pas mal. Pas de planning.
Très bonne intervention.
Page football. Le succès de Laval ce soir à Grenoble est important pour la montée en Ligue 1.
Et oui, important parce que Grenoble était 6e, Laval 3e de ce classement. Donc Grenoble pouvait revenir sur les Lavalois. On rappelle que la 3e, 4e et 5e place permet de rejoindre les play-offs. Et bien c'est Laval qui s'est imposé 2-0. Le but d'abord de Pablo Pagis, fils de Mickaël, qui marque le premier but sur un bon service de Samsana. Pénalty obtenu par les Lavalois. C'est Labo Lascari qui l'obtient. Bien c'est lui qui va le transformer, joueur prêté par le Racing Club de Lens. Hop! Plein axe, oh 2-0 oui. Pour Laval, donc qui revient à 2 points du deuxième Angers et qui prend une belle avance sur Grenoble. 8 points d'avance, les Lavalois ont sur Grenoble dans cette course au play-off ou à la montée directe.
Dijon se relance ce soir face à Niort dans la montée, mais en Ligue 2.
Ouais, c'est le deuxième Niort qui se déplaçait chez le septième cette fois-ci, le DFCO. Et cette fois-ci, eh bien, c'est le petit qui a gagné le septième à Dijon qui s'est imposé. Regardez la frappe de loin, sous-marée, boum. La frappe est jolie. Le gardien, Paul Delacroix, qui n'est pas exemple de tout reproche là sur cette tentative d'arrêt. Regardez. Hop, il est dessus, mais malheureusement, la balle lui échappe.
Chelsea s'impose contre Newcastle. 5 buts marqués ce soir en Première Ligue.
Un match spectaculaire, victoire 3-2 pour les Blues de Chelsea qui commencent bien la rencontre avec un but qui va être marqué, vous allez voir, par Jackson. Hop, il le dévie très légèrement. Ça suffit pour améliorer les stats sur une frappe de Cole Palmer. Et bien, c'est lui qui dévie le ballon. Newcastle revient dans la partie. Alexander Isak, 53e minute, ce qui la place bien hors de portée du gardien, partout entre les deux formations à ce moment-là. Puis Chelsea reprend l'avantage. Alors, Cole Palmer, il pense censé avoir marqué le premier but, mais il marquera bien celui-ci, le deuxième but, et puis surtout le très joli but. Regardez le raid dans la surface de réparation de Mudryk, l'Ukrainien, l'homme qui valait 100 millions d'euros, qui marque un but superbe, qui permet à Chelsea de s'imposer 3-2. Ils reviennent à 2 points de leur adversaire du soir, dans la terrible lutte pour la 10e place de Première Ligue.
Vous avez une image à nous montrer, le raté du soir, signé du rival de Lionel Messi, c'est ça ?
Cristiano Ronaldo, Cristiano. Qui a manqué l'immanquable. Alors d'abord, il a été éliminé en Ligue des Champions Asiatiques, quart de finale de la Ligue des Champions Asiatiques, et puis regardez ce qu'il a manqué. Ronaldo, il est face au but, boum, et ben il l'a mis à côté.
Oh.
C'est pas souvent qu'il en rate comme ça, Cristiano
c'est pas
Ronaldo.
Souvent. C'est honteux. Mbappé non plus. La page olympique des nouvelles de Félix Lebrun, c'est du ping, du tennis de table.
Félix Lebrun, c'est le plus jeune des talentueux frères Lebrun, évidemment, qu'on attend impatiemment pour les Jeux Olympiques. Alors lui était du côté de Singapour, au grand match de Singapour. Il faut savoir que c'est l'un des plus grands événements, l'un des grands chelem de ping-pong. Il s'est imposé en 32e de finale face au japonais Sora Matsushima en 5-7. Alors on a vu la première balle qu'il perd, hein, Félix Lebrun, il va se rattraper derrière en s'imposant. Donc ça c'est la victoire, la balle de match réalisée par Félix Lebrun qui s'impose donc. Il affrontera en 16e le Suédois Mathias Falk qui est 21e mondial. Donc dans ses cordes, a priori.
S'il n'avait pas de lunettes. S'il n'était pas mieux. Pas. Les JO, le soutien du soir. Soyons sérieux. Restons sérieux, Eric. Les JO, le soutien du soir.
C'est le comité d'organisation des Jeux Olympiques, le fameux COJO, qui est au soutien d'Aya Nakamura. Alors, c'est une histoire qui part de février dernier. Une indiscrétion signée L'Express qui affirme qu'Aya Nakamura pourrait chanter lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Alors que rien n'est officiel, il y a un groupuscule d'extrême droite qui décide de faire sa petite photo avec un discours un peu bas du front. Il n'y a pas moyen à Aya. Ici c'est Paris, pas le marché de Bamako. Une attaque qui a fait réagir, bien heureusement, le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Nous avons été très choqués par les attaques racistes visant Aya Nakamura ces derniers jours. Total soutien à l'artiste française la plus écoutée dans le monde. Sans pour autant affirmer d'ailleurs qu'Aya Nakamura chantera pour cette cérémonie d'ouverture. Ils l'ont dit, nous ne confirmons ou n'infirmons aucune de ces informations qui sortent. Ça laissera place à 2 fois plus de surprises. On vous donne rendez-vous le 26 juillet, date évidemment de la cérémonie d'ouverture.
Mise au point nécessaire. Le VAR en crise à présent, colère froide hier de Jocelyn Gourvennec pour le coach de pénalty, donc aurait pu être accordé à son équipe, le FC Nantes. On va regarder tout d'abord les pièces à conviction. Les deux petits extraits, 36e minute, vous allez voir du match OM-FC Nantes. Faute de Chancel Mbemba sur Moses Simon. Le ralenti s'il vous plaît. Voilà. Merci. 50e minute, attaque du FC Nantes là encore, on a changé de côté, la frappe de Mostefa Mohamed touche le bras de Chancel Mbemba, le ralenti va vous préciser, le Congolais touchera le ballon de la main une deuxième fois. Donc Jocelyn Gourvennec qu'on va retrouver en conférence de presse, il était dépité hier soir, le coach ne comprend en rien l'utilisation du VAR cette saison, regardez, écoutez.
C'est ça le problème.
Il faut aussi dire les choses. C'est incompréhensible que la VAR n'appelle pas monsieur Le Texier. Alors moi, je veux bien qu'on me parle d'erreurs manifestes ou pas d'erreurs manifestes, mais là, c'est un vrai problème. On est victime de ça ce soir. Qu'à minima, qu'il y ait une logique et qu'il puisse venir consulter les images. Mais c'est la même que Simon en première mi-temps. Parce que l'intervention, il lui marche sur le pied. Nous, on a été sanctionné d'un pénalty la semaine dernière contre Metz pour le même type d'action. Et ça, c'est ça qui est, enfin, c'est le trouble inné de plein de situations, mais pas seulement ce soir. Depuis le début de la saison, ça fait débat sur des images litigieuses où un coup l'arbitre vient voir, un coup l'arbitre vient pas voir, un coup il estime qu'il y a main, un coup il estime qu'il y a pas main. Ça crée du trouble et ça crée de la colère chez tous les acteurs. Et c'est difficile à accepter quand même.
Colère froide de Jocelyn
Gourvennec. Super zen quand même. Son équipe est barragiste, je le trouve très classe.
Et autre pièce vers ce dossier, Valdemar Quita sur le site L'Équipe, qui a été joint par Emery Ten. À partir du moment où il y a un doute, l'arbitre devrait systématiquement checker les images. Voilà ce que nous propose Valdemar Quita et le FC Nantes. L'arbitre devrait systématiquement checker les images en cas de doute. D'accord, pas d'accord avec Nantes. Benjamin, vous êtes plutôt d'accord par rapport à cette proposition?
Je fais partie de ces gens qui en ont marre dès qu'il y a un doute qu'en fait on ne fasse rien. Hier, je suis très surpris qu'on ne l'appelle pas pour aller checker justement. Alors, ils estiment que, notamment sur la main, que visiblement il y a le bras collé au corps et qu'il n'y a pas intentionnalité de faire main de la part de Chancel Mbemba. Mais enfin, à quel moment en fait on ne laisse pas l'arbitre juge de cette situation, cette action, qui a le droit d'aller checker cette action pour justement voir qui, enfin, pour moi, c'est évident qu'il y a main, il y a au moins une main sur cette action-là qui doit donner pénalty au FC Nantes. Donc, à partir du moment où il y a doute, je comprends pas à quel moment on ne lui dit pas d'aller checker et lui ne dit pas, mais attendez, vous êtes sûr, vous n'êtes pas sûr? Bon, Je vais voir et comme ça, moi, on met ça sur le tapis et je décide. Je trouve que ça responsabiliserait encore davantage l'arbitre central qui, là, finalement, se retrouve dans la panade avec une décision qui, pour moi, me semblait évidente et au final, il n'a pas pu la checker. En tout cas, on ne l'a pas appelé pour aller le checker.
Responsabiliser l'arbitre central. Les semaines dernières, donc, à chaque fois, on a fait des débats sur la VAR. On avait évoqué ces dernières semaines la difficulté, pas l'impossibilité, mais la difficulté pour un arbitre du VAR de corriger, on va dire, une star du sufflet. On pensait notamment à Clément Turpin. Peut-on déjuger François Le Texier, qui a été élu meilleur arbitre la saison dernière, qu'on ait Jérôme Brizard, donc était arbitre, bon arbitre aussi, arbitre du VAR.
Et quelqu'un de très proche de François Le Texier et de Clément Turpin. Les trois, ils se soutiennent souvent régulièrement. Il y en a souvent un qui a la barre de l'autre. Je dis juste qu'il y en a qui, il y a certains arbitres qui ont un tel ego qui ne supportent pas qu'on les déjuge. Et donc, c'est pour ça que tout le monde aussi n'est pas arbitré pareil. Je ne suis pas d'accord avec la proposition de Valdemar Quitta.
Pourquoi vous n'êtes pas d'accord?
Parce qu'il faut aller plus vite. La seule raison d'être du VAR, c'est d'aller vite. Ce n'est pas que ça dure 6 minutes à chaque fois. Mais là, c'est aussi évident,
vouloir aller vite. Il y a des situations de match où vraiment ça peut changer le cours du match.
Mais voilà,
pas pour aller voir.
Non, mais là, il aurait dû y aller. Je suis désolé,
l'arbitre du quart.
Marseillais, comme un gardien de but, il se met en long comme ça. Enfin, moi, c'est ridicule. C'est pas une position naturelle de défenseur. C'est pas possible. Mais effectivement, c'est un problème. Et moi, j'apprécie beaucoup l'arbitrage de M. Le Texier. J'en ai dit beaucoup de mal au tout début, il y a 4 ou 5 ans. Et je trouve vraiment, on le voit en Ligue des Champions, il mérite vraiment son titre de meilleur arbitre français. Mais là, c'est pas normal qu'on n'ose pas, que M. Brizard n'ose pas lui dire « Écoute, viens voir, parce que vraiment, il y a un loup. »
Il y a le communiqué du FC Nantes. Le FC Nantes souhaite obtenir des explications claires, c'est aujourd'hui, de la direction technique de l'arbitrage. Le club demande la communication des échanges entre le VAR et M. Le Texier. Ça nous a mis la puce à l'oreille, notamment ça vous a mis la puce à l'oreille, Adrien, puisqu'au Portugal... C'est ce qui est arrivé ce week-end. Hein ?
Effectivement, au Portugal, c'est l'arbitre qui explique sa décision. Ça s'est passé du côté de Braga, une première en Europe, l'arbitre qui va expliquer sa décision au micro. Une situation qu'on avait déjà vue d'ailleurs, c'était lors de la Coupe du Monde U20. On va montrer rapidement...
C'est le monsieur, hein ?
C'est l'arbitre Fabio Verissimo qui explique sa décision. On n'a pas l'image malheureusement. Ce qu'on peut vous montrer en revanche, c'est ce qu'on avait diffusé sur la chaîne L'Équipe. Ça se passe durant la Coupe du Monde U20. François Le Texier, en finale, finale c'est à Ouzbékistan Argentine, qui va expliquer au stade la décision qu'il a prise après avoir vu l'assistance vidéo. En revanche, on n'a pas l'échange entre l'assistance vidéo et l'arbitre.
On regarde.
After unfair review, the final decision is no penalty. The ball is clear play first. Restart by drop ball.
Il y a à faire sur le son parce que c'est insupportable.
Ah oui, il a un micro, il n'a pas peine de crier.
En Espagne, tous les audios sont diffusés chaque lundi au lendemain de chaque match. C'est une nouveauté cette saison. Je remercie la journaliste Anna Caro qui nous a prévenu sur ça. Le principe de transparence.
On devrait faire comme le rugby très vite avec tout de suite ce que tu entends entre les gens qui sont au VAR. Parce que ce n'est pas la technologie, le VAR.
On n'a même pas les images pour l'instant dans le stade. Dans le stade, on n'a même pas les images.
C'est c'est l'interprétation des images. Et là, il y a un problème, je suis désolé, qui est dû aux règles, qui les fait. Ben, c'est les arbitres. La cellule des arbitres internationaux.
Non, c'est pas les arbitres qui font la règle. C'est le board.
C'est l'IFAB. Oui, mais il y a toujours un représentant, un chef des arbitres.
C'est pas les arbitres.
En rugby, t'as un chef des arbitres qui représente le world.
Là, c'est le board qui
décide, mais il est avec quand même des pointures arbitrales qui sont. Il y a bien des mecs.
C'est pas les arbitres qui décident du règlement. Mais bon, c'est pareil eux-mêmes.
Bon, en tout cas, la proposition de Valdemar Quitta est rejetée.
Ah non, moi, comme un réalisateur, il doit voir les images.
Ok, la une de l'équipe,
l'arbitre central
de demain.
Elle est sur Jean-Louis Gasset, évidemment, l'entraîneur marseillais qui reste sur 5 victoires consécutives. L'OM peut-il s'en passer? Jean-Louis Gasset qui est en fin de contrat en juin prochain, qui est censé faire une mission d'intérim jusqu'à la fin de saison. L'OM peut-il s'en passer? C'est la question.
Gasset, l'OM peut-il s'en passer? Je pense qu'on pourra avoir un débat demain soir.
Hein? Allez,
ça sert à ça. Hein. Ça sert à ça?
Ah bah oui.
Bah voilà, merci. C'est une passe décisive.
Synergie.
Oh, la synergie. Allez mes amis, on vous embrasse. L'émission était... Mais c'est la faute de Mel Gibson. On vous embrasse, à demain. I can't let it used to be no more, and she will never thought it was no more.